Voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, une question qui concerne bon nombre d'entre vous. Les couples qui n'ont pas le temps de se voir vont-ils mieux? Ils sont toujours en déplacement, ils ne se voient qu'en fin de semaine ou pendant les vacances, loin des yeux, loin du cœur. Eh bien, c'est à vous de nous répondre, les voisines et les voisins. Les retrouvailles régulières, l'absence de routine et de disputes ménagères peuvent-elles finalement entretenir la flamme dans le couple? Faut-il se voir moins pour s'aimer mieux? Vous pouvez nous appeler, surtout n'attendez pas la fin de l'émission, dès maintenant sur notre compte WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Évidemment, dans le studio, une psychologue thérapeute du couple, Camille Rocher, bonjour.
Bonjour.
Vous tenez aussi un blog à nous tous, un blog de conseils pour vivre heureux en couple et en famille. Et vous allez dialoguer avec les auditeurs. Vous pouvez aussi poster des messages écrits, les voisines et les voisins, sur Twitter, sur Facebook et bien sûr aussi par mail 7milliards@rfi.fr. Le plus sûr moyen de nous joindre, c'est quand même le WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Je vous lis quelques messages. Posté sur nos réseaux sociaux, Toraï, qui est à Brazzaville au Congo, nous dit « Le seul avantage de vivre séparé, c'est que ma vie financière se porte mieux. » Eh oui, parce qu'on a moins de loisirs peut-être que quand on est à deux. Moussa, 40 ans, qui est à Sar, au Tchad. « Ma femme vit avec mes enfants à N'Djamena, donc à plus de 700 km, je pense. Je travaille 3 mois, je reviens chez moi 15 jours et ça recommence. C'est difficile. » Mais le côté positif, c'est que tu arrives à faire un tout petit peu d'économie. Mais quand les enfants te demandent à chaque appel « Papa, tu reviens quand ?», c'est difficile de leur répondre. Et oui, parce que la vie de couple, c'est aussi un briquet avec la vie de famille. Il ne faut pas l'oublier, hein, Céline Rocher.
Ah bah, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand on est un couple, mais qu'on est tous les deux indépendants, autonomes, parce qu'il n'y a pas d'enfants, à la limite, cette vie-là peut se conjuguer et petit à petit, on s'installe. Mais il y a un moment donné où quand il y a un engagement profond marqué avec l'arrivée des enfants qui font que là, on a tout à coup une nouvelle dynamique, ça devient la question de qui s'occupe des enfants, comment on gère les enfants. Quand on se retrouve ce temps quand même important pour les enfants, comment on imbrique ce temps pour le couple au milieu de toutes ces dynamiques?
Alors là, on citait le cas de ce couple séparé par plus de 700 km, mais toutes les distances peuvent aussi compter dans un couple. Dean est à Libreville au Gabon et elle nous dit « Moi j'ai un petit ami depuis 3 ans, mais depuis que j'ai changé de quartier, mon ami et moi, on se voit moins. Il s'en plaît, il s'en plaint, mais il connaît mes réalités, il ne doit pas être égoïste. J'ai mis sa photo dans mon profil WhatsApp, il est content, mais ça ne règle pas le problème. » Et puis il y a aussi cet auditeur à Kolwezi en RDC qui nous dit « La distance renforce les sentiments. Depuis que j'ai quitté Lubumbashi pour Kolwezi à 300 km en République démocratique du Congo, mes sentiments pour ma colombe sont encore plus forts. » Voilà, c'est beau quand même. La Fleur est un auditeur qui vit lui à Franceville au Gabon. Et il nous dit « Ma fiancée habite à Cotonou. On a habité ensemble 4 mois. Avant mon départ, je suis partie en pleine passion. Ma fiancée était enceinte. Je n'ai jamais vu cet enfant. Ma famille le voit, mais la communication virtuelle n'a pas suffi pour que l'on se découvre vraiment. On s'est séparés à cause de la distance. » Voilà, appelez-nous maintenant. On a envie de discuter de vive voix avec vous, les voisins et les voisines. Le compte WhatsApp, c'est le 33 7 64 45 51 41. Faut-il se voir moins pour s'aimer mieux?
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Bonjour, ici Mariama à Libreville au Gabon. Lorsqu'on est à distance, c'est bien bon, on se rassure, c'est bien bon, on s'appelle tous les jours, on se voit en visio, derrière une caméra ou derrière un micro, tous les jours, mais la réalité, elle est autre. Au bout de 10 ans, au bout de 5 ans, parfois même au bout de 3 ans, la lassitude et la monotonéité prennent le dessus. Et surtout, qu'on a besoin d'une chair auprès de nous, parce qu'on est des êtres humains. On ne se suffit pas d'amour et d'eau fraîche, c'est trop facile. Et pour tout vous dire, l'amour ne tient qu'à un fil, mais ce fil, il peut se couper à tout moment. Il faut être réaliste, il faut être honnête et il faut communiquer. Quand vous n'en pouvez plus, c'est simple, partez et libérez votre partenaire. Bonne journée.
Eh bien, merci Mariama. Il y a de l'amertume dans ce message de Mariama, 22 ans, qui est à Libreville au Gabon et qui est en fait en couple avec un homme qui vit à Rome, en Italie, depuis 2 ans. Et c'est pas simple. Autre situation, autre point de vue. Écoutez maintenant le témoignage de ce couple au Cameroun, à Douala. Joseph et Marie, oui, ça ne s'invente pas, se sont rencontrés quand ils étaient étudiants, il y a 10 ans. Marie, 34 ans, est aujourd'hui entrepreneuse. Joseph, 35 ans, est cadre de banque. Ils ont des horaires de travail intenses. Ils ne se croisent que très brièvement le matin. Leurs 4 enfants sont gardés par une nourrice. Le couple et la famille ne se retrouvent que le week-end et encore. Comment leur couple trouve l'équilibre? Ils se sont confiés à notre reporter Raphaël Constant.
Alors, notre couple, pour moi, sans prétention, est une inspiration pour beaucoup de couples. Mon mari, il est banquier, il cumule plusieurs fonctions, ça lui prend beaucoup de temps, il est à peine à la maison, il rentre très tard, il part très tôt. La ménagère qu'on a actuellement, il ne l'a jamais vue. Elle vient tous les jours, mais ils ne sont jamais croisés parce que ses horaires, justement, sont extrêmes. Et moi, je suis entrepreneur d'une petite entreprise et je donne le maximum, ce qui fait que moi également, je ne suis pas assez disponible. Il faut gérer 4 enfants qui vont tous à l'école et qui ont besoin de leurs parents. C'est en ça que notre couple est un peu particulier.
Je suis fier en fait de tout ce qu'elle accomplit comme femme entrepreneur. Et ensemble, on a su construire un projet professionnel commun. J'avais une carrière qui allait très vite, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment un couple, on va dire, de 2 personnes qui s'aiment beaucoup, mais aussi de 2 partenaires qui se soutiennent mutuellement.
2 personnes qui, si je comprends bien, ne se voient pas beaucoup.
Notre vie de couple, c'est surtout le week-end. C'est pas parce qu'on est marié, ça fait pratiquement 10 ans aujourd'hui, qu'on n'a pas besoin de faire des choses qui vont donner un peu de punch. Il y a une époque, on voyageait beaucoup les week-ends. Depuis que je suis à fond dans mon entreprise, on se limite seulement aux sorties en famille, mais qui ne sont pas insignifiantes. Bon, les week-ends qui peuvent aussi souvent être pris par les missions que fait mon mari dans les autres villes. Donc du coup, même le week-end, c'est limite.
Et donc, Joseph, vous voyagez beaucoup dans le cadre de votre travail?
Oui, effectivement, dans le pays. Parfois, on fait des missions même à l'extérieur du pays. C'est quelque chose qui est assez régulier. Vu que physiquement, on a beaucoup de défis professionnels, mais on est connecté en fait en permanence. Déjà, le matin, quand on se sépare, voilà, mon épouse m'écrit ou m'appelle pour se rassurer qu'est-ce que ça a eu à l'heure. Et généralement, en journée également, j'essaie de prendre de ses nouvelles. Les projets qu'elle supervise, ça va bien. Et on a un rituel, généralement, entre midi et 14h, on va s'appeler au moins 5-10 minutes pour faire un peu le point de comment est-ce que la journée se passe de son côté, de mon côté. Et également discuter des sujets urgents. S'il y a, par exemple, quelque chose à l'école des enfants ou il y a une réunion des parents d'élèves. Et en fin d'après-midi, on échange également beaucoup jusqu'au moment où on se retrouve le soir. En réalité, on est en conversation, en connexion permanente.
Et donc, quand votre mari est en déplacement, est-ce que vous faites des visios, vous vous appelez par vidéo pour vous voir, vous montrer les enfants? C'est comme ça que vous entretenez aussi votre relation?
Oui, bien sûr. Il peut me montrer là où il se trouve, son hôtel, tout ce que j'avais de temps, et moi également à la maison. On laisse même souvent les vidéos comme ça toute la nuit jusqu'à s'endormir. Ça permet au moins de compenser l'absence. Quand mon mari n'est pas là, je préfère rentrer à la maison, savoir que peut-être c'est le moment pour moi de me sentir peut-être seule aussi, de ranger mes affaires dans le placard que je n'ai pas eu le temps de ranger depuis, de refaire peut-être la déco pour préparer son retour, ce genre de choses. Pour moi, ce n'est pas mauvais en soi, cette distance qu'il y a souvent. C'est le moment d'aller faire la pédicure, la manicure, c'est le moment de changer de coiffure. Ça ajoute plutôt du piment dans la relation, à mon avis, oui.
Vous êtes d'accord? Vous cultivez aussi cette distance?
Cultiver, non. C'est vrai que pour moi, à chaque fois, c'est difficile parce que c'est en fait moi qui me détache de la maison. C'est justement le moyen de connexion technologique, là, voilà, d'être, de faire des visios, des appels permanents qui me permet, moi, en fait, de garder un certain équilibre, en fait.
Comme la dernière fois, il était en Afrique du Sud, il était aux Bermudes, il passait par l'Angleterre, en Turquie. Moi aussi, je vis ces pays au travers de ces vidéos, des photos qu'il m'envoie. Et je suis fière de ce déplacement. Je ne vais pas être égoïste en disant « Non, il faudrait que tu restes, on va rester ensemble. » Non. Et quand on se revoit, ce qui est né de cette distance-là resserre encore davantage les liens.
La distance, c'est quelque chose qu'il faut encadrer. Ça se gère par le dialogue, maintenir en fait cette flamme-là. Parce que la distance, en fait, c'est quelque chose mal géré qui peut être nocif pour un couple.
Est-ce que vous diriez même que si vous étiez plus souvent ensemble, vous ne vous supporteriez pas?
Oui et non. La routine, par expérience, crée des tensions souvent. Il faut se voir suffisamment, mais ce n'est pas obligé de se voir tous les jours. Notre relation est déjà assez solide. pour pouvoir être éloignés l'un de l'autre. C'est un peu comme un chantier. Chacun a son travail à faire, il le fait. Il y a aussi des cadeaux, pourquoi pas, des petits cadeaux qui peuvent racheter le temps. Quand j'étais là-bas, j'ai pensé à toi, voilà.
Par exemple, qu'est-ce qu'il vous a rapporté ?
Il m'avait rapporté une tenue traditionnelle ivoirienne la dernière fois qu'il était en Côte d'Ivoire. Au Bermude, il a écrit mon nom sur la plage, il m'a envoyé la photo. Ce genre de choses, ça aide à comprendre que voilà, je vais pour des raisons professionnelles, mais je ne t'ai pas oublié, je sais que tu es là. C'est important. Je me dis juste, nous sommes un couple qui épouse très bien les challenges de la vie actuellement. Dans ce sens, on peut dire qu'on est un couple moderne. Il y a certains regards. En Afrique, ici, on se dit toujours qu'une femme travaille, elle n'aura pas le temps de s'occuper des enfants ou bien de son mari. Carrément, c'est archi faux. Parce que chacun est déjà épanoui dans son âme intérieure. Chacun est déjà accompli. Du coup, on donne le meilleur de nous-mêmes pour l'autre.
Camille Rocher, psychologue, thérapeute de couple, qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage de ce couple camerounais, Marie, Joseph, accaparé par leur carrière professionnelle ? Ils ont le bon mode d'emploi ?
Alors, déjà, le bon mode d'emploi n'existe pas, parce que ce qui marche chez un couple ne marchera pas chez l'autre. Là, ce qui peut fonctionner, c'est qu'apparemment, le fait d'être au téléphone régulièrement, en lien, tout ça, les comble et sensiblement suffit pour eux à aller bien. En revanche, le problème, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes façons de sentir aimé. Et donc, quand mon réservoir affectif va être rempli beaucoup plus par des moments privilégiés à deux, par de la tendresse charnelle, par des petits cadeaux, elle en parlait, mais tous ces langages-là de l'amour qui ne peuvent pas s'exprimer à travers une visio, typiquement de voir que l'autre comprend mon émotion sans que je la lui dise, parce que ça peut être très compliqué pour beaucoup de personnes de parler de son émotion. La présence est obligatoire pour pouvoir sentir l'émotion de l'autre et entrer en contact avec l'autre, même si il n'y a pas eu de mots dessus. Donc ça peut vraiment être les freins dans cette relation. Pour eux, ça fonctionne et tant mieux. Maintenant, il y a aussi la question que Marie a soulevée vraiment au tout début, qui est de dire le couple fonctionne parce qu'on s'admire dans nos carrières. Joseph aussi l'a souligné. Simplement, il y a quand même, je trouve, derrière la question malgré tout des enfants, qui est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les enfants. Donc j'ai l'impression qu'ils ont une organisation qui est bien rodée. Donc le couple fonctionne, mais c'est vrai que j'aurais aimé leur demander comment vous vous sentez en tant que parents, parce que ça, on n'en parle peut-être pas trop. Et ça, voilà, ça aurait été la question qui m'intéresse. Et la dernière chose que j'ai relevée aussi, c'est la façon de vivre à deux. Alors certes, il y a la routine, il y a les petits désagréments du quotidien, le fait que je ne puisse pas forcément aller faire ma manucure parce que l'autre est là et on a prévu de faire quelque chose tous les deux. Mais malgré tout, c'est j'arrive à m'adapter à la réalité de ce qu'est l'autre. Et c'est sûr que c'est aussi quelque chose qui est beau dans dans ce défi du couple.
Oui, je compose avec
Avec ce exactement, que je peux. Tout à fait. Ouais. Donc,
Vous nous appelez les voisines et les voisins. Si vous vous êtes retrouvés dans l'histoire de Marie et Joseph, ou si au contraire pour vous, la distance, si vous êtes dans une histoire de couple où vous voyez peu avec votre partenaire, c'est compliqué. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Les retrouvailles, Marie le racontait, elle attend les retrouvailles. Ouais. Est-ce que ces retrouvailles parfois sont surinvesties, sont décevantes parce qu'on a trop d'attentes sur ce moment où on va enfin être ensemble, et où vous le disiez, ça va être normalement une relation de meilleure qualité que quand on est au téléphone ou en visio.
Alors moi je pense que, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait que pour Joseph et Marie ça fonctionne, c'est que en fait, il faut préparer ces retrouvailles. Voilà, ça se prépare. Il faut se dire dans quel état d'esprit on rentre à la maison, parce qu'on peut avoir aussi énormément de soucis au travail et revenir à la maison aussi avec ces soucis. Donc, on ne sera pas forcément autant disponible que l'autre le souhaiterait. Et moi, je crois que ça se prépare, parce que je sais que dans mon cabinet, j'ai beaucoup de confidences. Alors, moi, c'est vrai que ce sont plus des couples qui sont en France, donc c'est peut-être aussi une culture différente. Mais il y a quand même cette question, je le vois par exemple chez des couples de militaires où il y a beaucoup de déplacements. Il y a souvent une attente de l'un ou de l'autre qui est énorme, et en fait l'autre qui revient, qui est hyper fatigué, qui a besoin de se reposer avant de pouvoir de nouveau se donner dans cette relation. Et souvent il y a un temps d'ajustement qui n'est pas simple et dont il faut parler. Et c'est sûr que si on enchaîne plusieurs retrouvailles où on est déçu, au bout d'un moment ça va devenir une source d'angoisse. Et ça j'ai pu vraiment l'observer avec des couples que j'accompagne. Et donc le fait d'en parler, de désamorcer, de s'ajuster avant de se retrouver me semble essentiel.
Il y a parfois un déphasage aussi entre les hommes et les les femmes entre communication, désir sexuel, ouais, quand ces retrouvailles arrivent après une longue absence?
Alors, c'est évident que la sexualité est une des grandes questions, avec des femmes qui souvent vont avoir besoin de temps pour se retrouver, pour se sentir comprises, pour avoir pu vider leur sac aussi de tout ce qui s'est passé, parce que le téléphone ne suffit pas toujours. Et des hommes qui, au contraire, sont hyper, hyper heureux. Enfin, ça veut dire que la femme n'est pas heureuse, mais ont envie tout de suite de se redonner à l'eau, de pouvoir revivre un moment de plaisir à deux, de bonheur, de se montrer leur amour de façon dans cette union sexuelle. Et c'est sûr que là, un temps d'adaptation qu'on voit d'ailleurs dans le quotidien, hein, pas besoin de la séparation pour ça, mais là, d'autant plus important que il va falloir trouver ce temps-là pour se retrouver.
Est-ce qu'il faut, Camille Rocher, cloisonner les vies de chacun pour préserver une vie à deux, une vie qui est finalement très encadrée, très ponctuelle dans le temps? Ou est-ce qu'au contraire, il faut que chacun connaisse la vie, le lieu où réside l'autre dans ces moments d'absence?
Alors, je pense vraiment qu'il faut connaître le lieu où réside l'autre, son entourage aussi, les amis qu'ils ont pu se faire les uns et les autres en dehors de l'autre. C'est très important déjà pour pouvoir visualiser, pour pouvoir mettre des images, des noms, sentir aussi un peu le type de relation que l'autre peut créer à droite et à gauche. Bon, il y a la question de la confiance aussi, évidemment, de savoir un peu de qui tu vas me parler. Et puis, ne pas s'enraciner dans des vies de célibataire tout en étant en couple. Pour moi, ça, c'est très important. On a évidemment chacun nos petits hobbies qu'on aime faire seul, mais malgré tout, c'est important de voir que l'autre peut toujours y être intégré à n'importe quel moment.
Vous avez des couples qui finalement se sont installés dans ce confort d'un type de solitude dans la séparation régulière.
Oui, et donc des week-ends qui se passent très mal pendant les retrouvailles, parce qu'en fait il y a un espèce de déphasage où on ne se comprend pas, on ne comprend pas pourquoi on revient et l'autre est énervé, il y a plein de problèmes à gérer, alors que justement on aimerait juste retrouver du bon temps tous les deux. Et bien sûr qu'il y en a aussi qui vont dire, moi finalement je m'amuse quand je suis à l'extérieur et quand je reviens le week-end, c'est pour retrouver tous les problèmes de la famille. Et il y a une espèce de dichotomie entre les deux qui devient au bout d'un moment difficile à réunir. Et donc, ma vie seule devient la vie de plaisir et la vie à la maison devient la vie de contrainte. Et ça, il faut absolument éviter cela. Et c'est pour ça que j'invite souvent ces couples-là à dire, invitez-vous de temps en temps, posez deux jours et allez le voir dans son univers pour justement casser finalement cette nouvelle routine. Hein, parce qu'on parle toujours de la routine quand on est ensemble. Mais il y a plein de couples qui témoignent de cette routine des départs avec parfois l'angoisse de nouveau du départ, l'arrivée.
La valise dans l'entrée, etc.
Exactement, et ça c'est une nouvelle forme de routine.
Ouais. Alors, les couples qui se voient très peu, se portent-ils mieux ou pas? Mais c'est à vous de nous répondre hein, par rapport à tout ce qu'on a déjà dit dans l'émission. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41 et vous nous racontez votre histoire de couple avec ces séparations régulières. On se retrouve juste après Ignacio Maria Gomez avec Balaké Sissoko. Thank you. De voisins, on est en direct sur RFI. Les couples qui n'ont pas le temps de se voir, vont-ils mieux? On en discute avec vous, Camille Rocher, psychologue, thérapeute de couple. Vous tenez aussi le blog À nous tous, qui donne des conseils pour vivre heureux en couple, en famille. Et bien sûr, vous nous appelez avec vos histoires, avec vos témoignages, les voisines et les voisins de couples séparés, trop souvent séparés ou pas d'ailleurs, si vous trouvez finalement assez confortable la situation. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Un message de Luc à Cotonou au Bénin. Il nous dit « Moi j'aime cette situation de couple séparé, ça permet de s'éloigner des problèmes de couple. On ne crie pas, on n'est pas obligé de se mettre en colère et ça permet à l'homme de se distraire. » Cette situation me convient parfaitement. Voilà, ça c'est le point de vue de Luc. Sans commentaire, je crois que tout le monde a un peu décrypté que ça ne marche pas forcément super bien dans son couple. Awa aussi est une voisine inquiète qui nous envoie son message audio sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Écoutez-la.
Salut à tous les 7 milliards de voisins et voisines. Moi je trouve que c'est un peu frustrant. Des fois, tu as bien envie de voir l'autre, mais tu ne peux pas. Et des fois, on est amené à se faire des idées. Comme on ne se voit pas tout le temps, on se dit, bon, on ne sait pas ce que l'autre fait. Quand ça devient de plus en plus fréquent, ça peut vous éloigner l'un de l'autre.
Voilà le message très clair, hein. La question très claire d'Awa qui est à N'Djamena au Tchad. Quand on ne se voit pas, on peut se faire des idées. Et puis il y a également Lolita qui nous appelle au 33 7 64 45 51 41. Bien sûr, vous continuez de nous téléphoner. N'attendez pas la fin de l'émission surtout. Lolita est au Cameroun à Bafoussam. Bonjour Lolita.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en couple avec un homme qui vit à Yaoundé, donc à quoi, 300 km de chez vous?
On va dire ça, 400 km, fois 5 à 6 heures de route.
Ouais. Comment ça se passe? Alors, comment vous êtes organisés tous les deux?
Bah, nous organisons notre vie de couple en se voyant les week-ends, un sur deux, de commun accord.
Ouais.
Et en semaine, qu'il travaille, moi également, bah, on s'appelle.
Ouais.
Mais le matin, au réveil.
Mais il y a des enfants ou pas?
Moi, j'ai des enfants, oui.
Ce ne, sont pas des, ouais. Ce ne sont pas des enfants que vous avez avec votre compagnon?
Non, 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 pas du tout.
D'accord. Et comment vous gérez cette distance, cette relation un week-end sur deux finalement? C'est-à-dire que vous vous voyez quoi, à peu près 4 jours dans le mois?
C'est ça, on se voit à peu près 4 jours. On va dire un peu plus pour être généreux parce que c'est quand même vendredi soir jusqu'à dimanche après-midi. Et bah, on s'appelle, on fait des vidéo calls, des voice calls, on se laisse des messages écrits, WhatsApp. Et quand c'est des sujets plus sérieux, on s'envoie des mails avec des commentaires et suivi des commentaires sur des fichiers joints.
Mm-hmm.
Donc voilà à peu près
vous
comment
passez...
on essaye de gérer la distance.
Vous avez dit au téléphone, Lolita, au standard, que vous pouvez passer des soirées entières au téléphone avec votre compagnon?
C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je finis de travailler plus tôt, lui, il finit un peu plus tard. Donc, dès qu'il finit, voilà, c'est la fin. Jusque quand il va prendre son dîner, quand il va regarder sa série, quand il va aller se coucher, vidéo, quand ça peut plus marcher, on fait le voice call. Mm. Et même jusque quand il va se coucher, bah, c'est avec moi au dodo qui dit bonne nuit. Bon, écoutez, on se parle le matin.
Ouais.
Et voilà à peu près.
Ouais.
Est-ce qu'il y a ce désir de vivre à deux ou vous estimez que c'est mieux pour vous d'être comme ça?
Bon, disons qu'actuellement, il y a des aspects positifs et il y a des aspects négatifs, mais l'avenir, on ne sait pas, puisqu'on espère que ça va être différent.
D'accord.
Mais quand même, le positif, c'est que moi, je peux avoir du temps libre en semaine, travailler. Et quand même, la relation, elle est basée sur la confiance, parce qu'on se parle sans tabou, même qu'on peut avoir des extras, lui il en a, il a été clair. Moi non, parce que je pense que.
Qu'est-ce que vous
pas...
appelez des extras pour être clair justement?
Bah, c'est qu'il a d'autres, je ne sais pas comment appeler ça, d'autres relations, d'autres conquêtes,
ouais.
D'autres personnes qu'il voit.
Ouais. Et vous, non ?
Moi, non. Franchement, je n'ai pas le temps et psychologiquement, non, ça ne m'équilibrerait pas.
Et c'est un problème pour vous, le fait que votre compagnon vous dise honnêtement qu'il a parfois des histoires ailleurs ?
Je pense que c'est un aspect négatif de la relation à distance, dans la mesure où si j'avais été présente au quotidien, peut-être qu'il n'aurait pas eu le temps ou bien qu'il n'aurait pas été capable d'organiser de pareilles escapades, quoi. Donc, c'est pas l'idéal, mais qu'est-ce que je peux faire dans ma situation ?
Camille Rocher.
Ah, c'est évident que je pense que la relation à distance marche quand on n'a pas le choix et qu'on tente de s'adapter pour quand même tenir la relation, même si pendant un laps de temps, on est obligé de vivre à distance. Il est vrai que je pense, dans ce que vous pouvez témoigner, Lolita, et à mon avis, il y a quand même un manque qui s'installe et il y a peut-être un manque aussi d'attachement, vraiment cet attachement charnel l'un à côté de l'autre qui crée la relation, qui continue à entretenir cet amour. Et je pense qu'une relation à distance ne peut fonctionner que si on a un cadre très précis. C'est vrai que j'imagine que pour vous, ça doit être quand même douloureux. Et à mon avis, il y a peut-être quand même quelque chose à travailler là-dessus, sur ce manque qui, je pense, ne devrait pas générer de nouvelles blessures dans le couple, mais plutôt essayer de trouver une solution sur ce manque entre vous deux et non pas avec des solutions extérieures.
Lolita, est-ce que vous savez quel est le poids du regard extérieur sur votre couple, on va dire, atypique ?
Culturellement, ce ne serait pas accepté, dans la mesure où les copines, les filles disent « Ah mais non, il n'a pas le droit de te dire qu'il va voir ailleurs ». Mais en parlant avec des personnes plus âgées, hein, c'est-à-dire mes mamans et tout ça, elles me disent, tu sais, la polygamie, ça existe. Il faut savoir ce que toi, tu as comme effet positif dans cette relation-là. Et si ça te fait du bien, en attendant d'avoir mieux dans cette relation, pas forcément ailleurs, en attendant peut-être de pouvoir vous retrouver et de pouvoir être plus proche physiquement, on construit, quoi, on fait avec.
Moi, ce que j'entends, c'est que finalement, il y a une forme de confiance qui s'est construite entre vous deux, dans le fait qu'il est clair avec vous sur les histoires qu'il peut avoir ailleurs, et que peut-être aussi, il y a quelque chose qui n'est pas programmé pour durer, j'imagine.
Ça, on ne sait pas, parce que je pense que je suis assez confortable, hein, lui aussi, et on n'a qu'à dire qu'on était là pour 6 mois ou 1 an, ou je ne sais pas trop quoi, et il y a quand même de l'attachement et du sentiment et des émotions qui font que c'est difficile d'être cartésien et de dire « on va sur 6 mois de relation renouvelable et pourquoi pas CDI, quoi ». Donc, je ne sais pas.
Bon, alors, la conclusion, c'est que ce n'est pas si négatif que ça pour vous, Lolita.
Non, parce que ça fait une petite vie de célibataire, un pépère, et puis les week-ends, vraiment, amour à fond, quoi.
Amour à fond, les week-ends. Voilà, c'est une belle conclusion. Merci à vous, hein, Lolita, de nous avoir appelé en toute vérité. Je ne sais pas s'il vous entend, d'ailleurs, votre compagnon qui est à
Yaoundé. Le podcast, mais je pense qu'il est au travail, il ne m'entend pas.
Vous voulez lui faire un petit message à distance ou pas, Lolita ?
Je veux bien, il sait que je l'aime et que je voudrais être avec lui plus souvent, mais pour le moment, on se met pas la pression, on fait du carpe diem et l'avenir nous dira.
Merci à vous, Lolita, de votre appel. Très bonne journée à Bafoussam.
Je vous en prie,
au Cameroun.
Bonne journée également.
Vous continuez de nous téléphoner, les voisines et les voisins, au 33 7 64 45 51 41. On parlait de ce regard des autres. Je pensais à ça parce que quand on a entendu le témoignage de Marie et Joseph, couple qui se voit peu, très peu, mais tout en cohabitant, tout en vivant sous le même toit, et qui disait d'emblée, nous, on veut montrer cette réussite-là aux autres. Est-ce que ça peut être aussi une pression pour être heureux, pour démontrer que ça marche, ce couple qui se voit très peu, Camille Rocher ?
Alors, il est possible d'ailleurs, comme dans toute vie de couple installée avec nos rituels, nos habitudes, qui marchent très bien à un moment donné et qui, au bout d'un moment, doivent être remises en question. Là, dans cette vie à distance, je pense que la fragilité qu'il faut, sur laquelle il faut faire très attention, c'est qu'à tout moment, il faut pouvoir être capable de la remettre en question. Et en effet, là où ça peut être, Marie parlait même de modèle par rapport au regard extérieur, je crois qu'il faut faire attention parce que ce qui peut être un modèle peut ne pas forcément, au fond de moi-même, dans mes émotions, tout ça, m'aller à un certain moment. Et je crois que c'est d'ailleurs la réussite des couples, vraiment, c'est de savoir se dire à un moment donné où ce qu'on a mis en place qui marchait si bien aujourd'hui ne marche plus, et ça, c'est ça vaut dans
si,
toutes les situations
même
de couple.
Si on donne à voir une image positive de cette séparation à l'extérieur,
alors en fait, il y a de toute façon tout couple vit une image sociale et une image plus intériorisée, quoi, beaucoup plus personnelle, réelle, qu'on ne voit pas. Ce qui est sain d'ailleurs, c'est vraiment une façon de s'adapter. Si on étalait tous nos problèmes devant tout le monde, ce serait pas forcément très sain. Donc il y a quelque chose de très sain là-dedans. Maintenant, attention, en effet, une forme de pression où on ne pourrait pas créer de vraies relations parce qu'on serait toujours dans une forme de représentation et comme on a dit que ça marchait pour nous, il faudrait que ça marche tout le temps. En réalité, on crée quand même la relation aussi dans l'aveu de nos faiblesses, de nos fragilités, tout en préservant un jardin secret de notre couple. Mais je pense que ça peut en effet générer une vraie pression.
Je vous lis le témoignage de Parker qu'on n'arrive pas à joindre. Il devait passer en direct, mais il est dans un endroit très bruyant. Il a 29 ans, il est à Brazzaville, au Congo-Brazza. Donc il est séparé de sa petite amie depuis 2 ans, qui vit dans le nord-est de la Chine. Alors évidemment, c'est pas à côté. Quand je suis allée là-bas, nous raconte Parker, il y a 1 an, on s'est fiancés. Cette séparation est positive pour moi, parce que comme je suis un jeune travailleur, j'avais du mal à me concentrer, parce qu'elle m'appelait trop souvent. Quand elle est partie, les appels se sont évidemment espacés. C'est moi qui appelle. Et autre point positif, l'absence a renforcé notre couple. Pour elle, le point positif de la séparation, c'est qu'elle va devenir quelqu'un. Elle fait des études de diplomatie. Elle revient en 2023. Alors 2023, ça peut sembler très lointain, ou finalement, ça peut sembler un vrai port d'arrivée pour un couple, 2023.
Alors, moi, ce que j'entends dans cette histoire-là, c'est qu'il y a la question de la fusion que beaucoup de couples vivent et qui devient étouffant quand on vit ensemble au quotidien, quand il y en a un qui est dans cette demande de fusion. Je dirais que le problème se situe plus là-dedans. On a l'impression qu'elle est obligée de s'éloigner pour pouvoir s'épanouir individuellement parce que dans la fusion, elle n'y arrive pas et elle a trop besoin de l'autre pour être heureuse. Et c'est peut-être ce problème-là qui fait que ça fonctionne aujourd'hui et l'échéance de 2023, donc c'est pas indéfini. Simplement, peut-être que la question de se dire et faire qu'on travaille cette fusion-là pour être capable de nouveau de vivre à deux, je pense que ce serait bon dans la mesure où la distance, il faut pas que ce soit une fuite de nos quotidiens, une fuite de cette incapacité à gérer nos conflits, à se parler. Il faut que ce soit parce que, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix et on s'adapte. Mais quand c'est décidé, souvent, il y a un peu quand même cette question de on n'arrive pas à gérer nos problèmes et donc ça nous aide à ça.
Et au retour, après la séparation, il faudra reconstruire quelque chose autrement. Une question de Landry qui a 29 ans, qui est un Congolais à Kinshasa, mais il est étudiant en Roumanie. Ma copine de 24 ans habite aux États-Unis, moi en Roumanie, je souffre de ne pas la voir. Faut-il classer l'histoire ou dois-je être patient, sachant que j'ai confiance en elle ?
Alors, la grande question, c'est la question de l'engagement. À quel point elle ne peut pas, mais elle fait tout pour qu'ils soient réunis, ou elle met un frein et en fait, ça lui convient comme ça. Et dans ces cas-là, ma question, c'est de dire, est-ce que moi, je veux un couple comme ça ? Est-ce que je suis capable de vivre dans un couple comme ça ? Est-ce qu'on peut se projeter, encore une fois, avec la question des enfants, peut-être d'investissement immobilier, enfin voilà, tous les projets que les couples ont ensemble en général ? Là, il y a vraiment cette question-là. En fait, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas déroger, même par amour. Donc parfois, il vaut mieux se séparer, même si on s'aime, mais pour pouvoir vraiment avancer dans la croyance de nos valeurs. Et il y a certains moments où on voit que l'autre est très engagé et ce sont des problèmes, je dirais, matériels ou pour lesquels il faut trouver une solution avec plus ou moins un temps de délai à respecter.
Mais... Ces couples à distance qui se parlent beaucoup au téléphone, est-ce que parfois, et paradoxalement, on ne se dit pas plus de choses au téléphone, des choses qui sont difficiles, justement, faire le point, comment je vois les choses, de quoi j'ai envie avec toi et voir si ça coïncide avec... Toi, comment tu vois les choses ?
Oui, évidemment, il y a une façon, alors encore plus par écrit, je dirais, parce qu'on se dit les choses comme ça tout à coup, sans savoir dans quel état, dans quel contexte, dans quel état émotionnel l'autre va recevoir ce qu'on lui dit. Donc ça génère d'ailleurs de nombreux quiproquos, hein, des incompréhensions, où on l'interprète comme on le voudrait, donc tout se passe bien, il n'y a pas de problème, alors qu'en réalité, c'est pas réglé. Je pense que ça, c'est une grande difficulté. Et après, il y a aussi la question... malgré tout, hein, des écrans, de tout ce qu'on peut se dire, où il y a une espèce de distance. Encore une fois, avec la question des enfants, avoir une relation avec son père ou sa mère derrière un écran, ça n'a rien à voir avec un câlin, avec des regards. Pour moi, là, il y a quand même toujours cette question qui est très fragile.
Un couple qui se construit avec la distance ou avec peu de vie ensemble, est-ce que c'est plus facile à faire durer qu'un couple qui va connaître cet éloignement après avoir vécu une vie à deux, entre guillemets, normale? Les couples qui ont toujours connu ça.
Alors, ce que j'observe, alors moi, ce sont les couples que je vois dans mon cabinet, c'est que cette vie à distance, au bout d'un moment, même si on l'a décidé au départ, il y en a quand même un des deux, au bout d'un moment, qui a besoin de plus et qui a envie qu'on se retrouve et qui va vouloir qu'on se retrouve de plus en plus. Là où les couples qui ont vécu ensemble et qui, pour des raisons, alors souvent professionnelles, hein, malgré tout, sont obligés de s'éloigner géographiquement, c'est ce que je disais, parfois, il n'y a pas d'autres possibilités parce qu'on ne peut pas bouger les enfants, parce que là, ils sont dans des études importantes et il y en a un qui est obligé de rester, enfin voilà. Là, ça va quand même être très différent parce qu'on va tout faire pour s'adapter, mais il y a cette question du délai, quoi. On s'installe quand même rarement volontairement là-dedans quand on a eu avant une vie à deux installée avec des projets où malgré tout, on crée son nid aussi à l'intérieur de son foyer et on n'est pas toujours... Il y a quand même un manque aussi quand on en sort.
Oui, vous le dites bien, à un moment donné, il y en a un des deux qui va être en déphasage. Camille Rocher, alors finalement, en conclusion, quel serait le mode d'emploi? Vous l'avez dit au début de cette émission, bien sûr, il n'y a pas de mode d'emploi. Ce qui marche pour un couple ne marche pas pour un autre. Mais on a entendu au gré des témoignages, des rituels, des façons de communiquer. Oui. Se voir moins, mais mieux, ça peut marcher. Mais finalement, à quelles conditions?
Alors, il faut que ce soit très cadré. Ça, c'est un mot que Joseph a employé tout à l'heure. Et je crois qu'on n'a pas le choix dans ces relations-là. Il faut que ce soit très cadré et qu'on soit capable de remettre en question à n'importe quel moment ce cadre. C'est-à-dire qu'on soit capable d'en discuter et qu'on ne garde pas pour nous des ressentiments parce que ça ne fonctionne pas. Donc, il y a cet aspect qui est très important. Évidemment, un lien quotidien, bien sûr. Alors, on n'est peut-être pas forcément obligé de rester 2 heures au téléphone parce que parfois, ce n'est pas possible. Mais d'avoir quand même ce lien quotidien, on va se raconter nos quotidiens, on se suit mutuellement. Je pense que de connaître l'univers de l'un et de l'autre, c'est extrêmement important. Et parfois, savoir aussi casser cette routine pour montrer que mon engagement est là. Dès que je peux revenir, je reviens. Dès que j'ai cette possibilité-là, que je me rapproche pour un déplacement, tout ça, ça demande de l'énergie, mais je pense que cette énergie vaut le coup pour construire et enraciner ce couple dans une relation en chair et en os.
Voilà. C'est pas simple, hein, tout ça. Cadrer, mais non. Savoir casser la routine, rediscuter le cadre à tout
mais
moment.
Mais c'est un vrai challenge. Hein. Honnêtement, cette vie à distance est un vrai challenge pour les couples.
Un vrai challenge de communication, finalement.
Ah ouais, vraiment.
Merci Camille Rocher, vous êtes psychologue et thérapeute de couple. On peut vous retrouver sur votre blog À nous tous, un blog de conseils pour vivre heureux en couple et en famille. Dans quelques instants, je vous propose de découvrir un itinéraire de migration inversée, le portrait de Bachir Samb, comédien d'origine sénégalaise en Espagne. Il a publié un livre pour raconter son histoire. Ça sera juste après cet extrait du dernier album de la légende de Chicago, Common Black Thought, et au saxophone, c'est Sun Kuti, le plus jeune fils de Fela. Bouncing mystic, realistic, and simplistic. Spirits visit, how we live it. It's intrinsic, kismikistic. It's smeared like lipstick, colorful on our souls. A mouthful of gold or a drummer's roll. Stories get told about us. That's why things so blind without us. Wherever we are, you can feel the prowess. Whenever we move, yo, we turn the style up. I'ma just give black powers flowers, whether in the projects or the palace. Even when the pale horse tried to gallop and stir it up, we kept the balance. We move in silence, we move the loudest. Ancestors in my dreams, they moved the wildest. They prayed about us, praised and shouted. Picture this country being brave without us. A slave's nostalgia, moved through the woods with vigor. When we got free, the world moved with us. Now they wanna change their bodies, go figure. Used to call us, now they wanna be niggas. We the rivers that move through the jungle, yo. When we move, we make the world wonderful. When we move, the whole world following our path.
And who can move like this? Let me see what I could do right quick. My people were made in whose likeness? Boy, fly niggas ain't never flew like this. Pitch black butterfly from the other side. Somebody's style was lost, it wasn't mine. I'm in a small demographic of real ones dealing with all things classic. King's fabric, linen and silk. From the home of the solid gold, honey and milk. The ones who built it from the mud, soil and sand. A black man, the world in the skin of his hand. Pop de la sop when I shine beyond Stella. Fella, Kwame and Crummer, Mandela, leader, truth teller. The ink well dweller, my pen signs a New York Times bestseller. When I move, y'all move in my wake. BD energy, I generate. How to never move weak, I demonstrate. Celebrating my peeps when I innovate. For my dons and divas, weighing odds and evens to the non believers, vagabonds and heathens, achievers. We ain't satisfied with dreaming. Long as I'm still breathing, watch how
when
I move.
Milliards de voisins, on est en direct sur RFI. Nous partons maintenant pour Madrid. Rencontre avec une migration inversée. Bachir Samb, jeune comédien de 24 ans, est né à Las Palmas, aux Canaries, de parents sénégalais. Toute son enfance, Bachir l'a passée au sein d'une famille d'accueil espagnole, mais à l'âge de 8 ans, ses parents divorcent et l'envoient seul au Sénégal, vivre chez sa grand-mère. 14 années ont passé, voilà que Bachir est de retour en Espagne pour faire carrière dans le cinéma et puis surtout tenter de changer les mentalités. Cette migration assez inhabituelle de l'Europe vers l'Afrique, il la raconte aujourd'hui dans son livre autobiographique Una Carta a Adelina, Adelina sa grand-mère. Notre reporter Inès Edel Garcia l'a rencontré dans les rues de Lavapiés, le quartier le plus multiculturel de Madrid.
Je viens souvent ici, à chaque fois que je viens, je demande le café car je n'ai pas de café chez moi et je ne sais pas comment on le fabrique. Car j'avais l'habitude une fois là-bas, à 17h, chaque jour je prenais du café tout bas. Donc à chaque fois que je prends ce café, ça me fait penser au Sénégal.
Vale, gracias.
Merci.
Qu'est-ce que tu viens chercher ici, à Lavapiés, à Madrid?
La première chose que je vois, c'est voir des Noirs comme moi, africains. Il y a une faible population de Noirs ici à Madrid, mais par contre, il y a beaucoup plus de Sénégalais que de gens de cette Guinée équatoriale. Moi, là où je vis, c'est rarement que tu vois un Sénégalais. Tu peux voir des Noirs, mais d'origine d'Amérique latine, genre République dominicaine et trucs du genre, mais des Sénégalais, je les trouve ici à Lavapiés.
Dans les autres quartiers de Madrid, tu te sens pas à ta place?
Quand je venais juste d'arriver à Madrid, il y a un an de cela, j'entrais dans une boutique et les gens parlaient anglais. Et je répondais tout sérieux en espagnol. Ils me disaient « Ah, tu parles espagnol ?»« Oui, je suis né ici. » Ils disaient « Ah, ok. De quelle partie de l'Espagne tu es ?» Et je dis « Île Canarie. » Et ils me regardaient bizarrement. « Toi, tu es de l'île Canarie ?» Des fois, ça m'arrive de dire « Qu'est-ce qui se passe ?» Comme je suis noir, je ne peux pas naître ici ou quoi. Pourquoi ? Parce que dans la télévision espagnole et dans le ciné, les Noirs n'ont que des rôles d'immigrés qui ne parlent pas l'espagnol couramment. Tu dois parler espagnol avec un accent africain. Tu es venu avec une pirogue, tu viens te chercher la vie, tu es serveur, tu es le bandit du coin. Et par contre, il y a d'autres réalités. Moi, je dis que c'est bien de raconter l'histoire d'un immigré, d'un marchand ambulant, mais Il y a des gens noirs ici en Espagne qui sont nés ici, qui ont fait leurs études ici, qui sont des avocats, des policiers, des journalistes, et ils ne se sentent pas identifiés dans le cinéma. L'Espagne est le pays qui est au sud de la carte de l'Europe, et pourtant c'est l'Espagne qui tourne le dos aux pays africains. Ça doit avancer et évoluer, car dans d'autres pays comme la France, l'Angleterre et les États-Unis, ils sont en avant avec plus de générations par rapport à l'Espagne. Ça devait être le contraire, mais ce n'est pas le contraire, c'est un peu bizarre.
Quelle image tu avais de l'Afrique avant de partir au Sénégal?
Beaucoup d'images erronées, car on me montrait que dans la télévision, des explosions, des guerres, de la famine, de la pauvreté. Et c'était une image vraiment triste, pas enrichie, et il ne te montre pas la culture, ce que tu peux apprendre là-bas, ce que tu vis au jour le jour. Donc, une fois avoir vu ça, j'ai décidé de raconter mon histoire pour montrer cette face cachée qu'on ne nous montre pas dans les médias.
Ça a été un choc pour toi d'arriver sur le continent africain ?
C'était un peu bizarre, le fait d'être noir et d'avoir été élevé par une famille blanche en Espagne.
Mais à l'époque, tu ne parlais que l'espagnol.
Ouais, je ne parlais que l'espagnol. Du coup, ce fut trop difficile d'apprendre le Wolof et le français en même temps. Car le Wolof se parlait à la maison et une fois à l'école, il parlait français. J'ai appris le français bien avant le Wolof car je le parlais tout le temps à l'école. Au début, je parlais avec ma mère qui entendait les deux langues. Et que je l'appelais des fois et je lui demandais comment on dit ça pour pouvoir me communiquer. J'aimerais parler à ma grand-mère et lui dire ceci. Du coup, elle prenait le téléphone, elle parlait à ma grand-mère. Et petit à petit, j'étais en train d'apprendre, disons.
Comment tu te définis, toi, aujourd'hui, Bachir, comme afro-espagnol ?
Aujourd'hui, je ne me définis pas comme afro-espagnol parce que afro, ça veut dire, ça vient d'Afrique et l'Afrique est un continent. Moi, en Afrique, je suis parti seulement au Sénégal et je suis né dans les îles Canaries, qui est une partie de l'Espagne, mais qui est plus proche de l'Afrique que de l'Espagne. Donc, je me considère sénégalais et je me considère espagnol en même temps. Même si je suis né ici et je n'ai pas encore la nationalité, car le droit du sol, ça n'existe pas, au moins à l'époque où moi je suis né, car mes parents, ils n'avaient pas de papier et je n'ai pas pu avoir la nationalité, mais je ne vais pas exclure aucun des deux pays, car ces deux pays sont à moi.
C'est l'histoire de Bachir Samb qui l'a publié en espagnol, Una carta a Adelina, en Espagne, chez un éditeur espagnol. On espère que le livre sera traduit. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlons cuisine. Comment parfumer ses plats avec des herbes aromatiques et tout changer dans l'assiette. On attend vos recettes, vos astuces, bien sûr, avec le chef Anto qui sera dans le studio. Et vous nous appelez au 33 7 64 45 51. 41. À demain, les voisines et les voisins.
Tout à l'heure sur